Bonjour, je vous ai mis les feuilles de troisième annexe. S'il y en a qui n'ont pas eu l'une ou l'autre, j'en ai encore quelques restes. Je vous signale que à la fin du deuxième paragraphe, avant-dernière ligne, il y a au moins une faute d'orthographe, c'est « le reconnaissance et le service ». C'est « la reconnaissance ». Comme vous aurez toutes ou tous corrigé. Nous avons vu la fois passée avec Amos une expérience de prophète. C'est un homme, comme nous l'avons vu, qui était un agriculteur, un rural. C'est un homme qui est outré par les différences sociales et par les luttes qu'il y a. Et dans sa ville, probablement, et à Jérusalem, mais surtout dans le nord. C'est ça qui l'a frappé. Parce que dans le nord, on vit mieux, on a beaucoup plus de confort qu'à Jérusalem, que dans le sud, et on en profite. Le profit, c'est un Baal, c'est-à-dire une idole. L'injustice, c'est-à-dire attirer les choses à soi-même, c'est un Baal. Il y en avait beaucoup à l'époque. Il y en a probablement beaucoup plus encore aujourd'hui. Un Baal, une idole, c'est une réalité bonne. Mais le danger, c'est que quand c'est bon, on l'idéalise et surtout on l'absolutise. Il n'y a plus que cela. Ça prend tout le terrain. Toutes les préoccupations. Il s'agit de faire de l'argent, et on fait de l'argent de tout. Et donc, le prophète Amos réagit contre cette réalité-là, et lorsqu'il parle d'ennemis d'Israël, faisons bien attention que ce ne sont pas seulement des ennemis en chair et en os, ce sont bien sûr des profiteurs de toute manière, mais qu'il y a derrière tous ces noms que nous ignorons la plupart du temps, il y a des réalités profondes, et ces réalités, elles sont de tous les temps. Nous allons encore voir un autre prophète, c'est Michée, pas tout de suite, c'est Michée, qui est un peu de la même encre, si on peut dire, en tout cas de la même voix, de la même tonalité, que Amos. Mais lui, c'est un homme du sud aussi, de Moréchet. C'est une autre région, ce n'est pas tout à fait Bethléem au sud de Jérusalem, c'est plus vers l'ouest, c'est près de Gat. Gat était une des villes qu'avaient pris les Philistins. Gat, Ekron, Ashdod, hein, ce sont les villes importantes des Philistins, vers la côte. Pas tout à fait sur la côte, mais vers la côte, encore dans les collines. Et vous verrez qu'il s'agit de la même tonalité. Mais avant cela, nous avons à voir un autre prophète qui est Osée. Osée, lui, travaille aussi dans le nord. C'est pour ça qu'on les met souvent ensemble, Amos et Osée, deux prophètes qui travaillent dans le nord. Et justement, il faut bien vous mettre en tête que la Samarie, le nord, a une vie beaucoup plus facile. Et de fait, les fouilles ont démontré, les fouilles de la ville de Samarie notamment, et des environs, Tirsa par exemple, Tel el-Fara, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une grande différence sociale. Les grands avaient beaucoup d'argent et les petits traînaient vraiment la patte. Et donc ce sont des réalités que nous trouvons encore aujourd'hui. En effet, une des conséquences du pouvoir royal notamment, c'est que le roi s'entourait en quelque sorte des grandes fortunes et laissait les autres dans la dèche. Mais Osée nous transporte un peu sur un autre plan. Le prophète Osée est important parce que il vit terriblement une autre réalité, bien sûr. Amos et Michée vivent la réalité sociale. Mais Osée est touché dans son affection. Il a un problème avec sa femme. Qui est sa femme, on ne sait pas très bien. C'est très difficile à lire quand on lit le texte de ce prophète. C'est difficile à lire la réalité profonde qu'il y avait derrière. Est-ce qu'il a épousé une prostituée? Est-ce qu'il a épousé une femme qui est devenue adultère, qui était infidèle? Est-ce que c'est une prostituée mais qui est retombée dans sa prostitution? Les exégètes historico-critiques essayent de travailler cette chose-là. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir que ce qu'il vit dans son foyer lui donne de percevoir comment Dieu vit la réalité avec Israël. Et justement, l'importance d'Osée, c'est qu'il a introduit cette réalité affective dans ce qui était jusque-là un pacte, un contrat. On percevait bien que Dieu avait fait un pacte, un contrat avec Israël, et que Dieu s'était donné corps et âme pour qu'Israël vive selon l'alliance. Et Osée perçoit cela. Il perçoit surtout l'infidélité d'Israël à travers son foyer, où se vit précisément, si on peut dire, l'infidélité. C'est important parce que il fait corps avec ce qu'il vit personnellement et ce que son peuple vit. Et on ne sait pas ce qui est le premier. Si c'est son expérience matrimoniale qui est première, ou si c'est son expérience de l'infidélité d'Israël, et donc de la fidélité de Dieu. Mais on voit bien que c'est cela qu'il essaie de vivre, et qui le déchire. Mais Dieu est dans cette déchirure. Et c'est précisément cela son message. C'est que Dieu est déchiré par ce que vit l'homme. C'est donc que Dieu se trouve dans l'homme d'une certaine manière. Et donc il se trouve surtout dans les relations humaines, puisque c'est une relation qui est brisée. L'activité prophétique d'Osée commence 2 ans avant la mort de Jéroboam et s'étend sur plus de 20 ans. Et donc il vit une époque mouvementée. On craint toujours le nord parce que les Assyriens prennent de plus en plus de terrain. Ils avancent petit à petit. On achète des terrains, on les prend tout simplement, on les réquisitionne et Israël devient de plus en plus petit. Israël, c'est le royaume du nord. Donc la Samarie se trouve entourée et surtout elle se trouve menacée. Et vivre une réalité menaçante, ce n'est évidemment pas facile. sa patrie, et vraisemblablement, ils ne sont pas toujours très précis dans leurs souvenirs, parce que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'expérience intérieure. Sa patrie est vraisemblablement la tribu de Benjamin. Pourquoi le dit-on ? Parce qu'il cite volontiers hein, des villes ou des villages de la circonscription qui était une des petites, la tribu de Benjamin. On connaît le nom de son père, Béri, le puisatier, celui qui avait probablement hein, creusé les puits, et le nom de la femme ou des femmes qu'il a épousées. Et cette femme, il l'appelle Gomer, ça veut dire l'achèvement. Gomer, Gamar, c'est achevé, fermé, hein, ou l'enfermé, on pourrait traduire comme cela aussi. Mais on ne connaît pas son milieu social, c'est pas ça la réalité la plus importante pour lui. C'est ce qu'il vit intérieurement dans son affectivité. Comme je vous le dis à la page 43, la langue d'Osée est riche mais difficile, car elle semble fort influencée par le dialecte du Nord. Il y a aussi des dialectes à l'époque, et cela colore différemment l'hébreu. Âpre, imagé, faite de contraste, sa manière d'écrire exprime son caractère passionné. Et je vous cite ici une parole d'un exégète, Edmond Jacob. Le pathos divin, fait de colère et d'amour, apparaît chez lui à chaque page. Et même lorsqu'il parle de Dieu à la troisième personne, il le fait dans un état d'inspiration tel qu'on peut difficilement opposer le changement de personne comme parole divine et parole humaine. Il mélange tout ce gars-là. Et c'est un peu ce que nous faisons généralement. Tout est coloré d'affectivité. Et il faut que cette affectivité se dise. Et alors, je vous donne ceci, un petit point important encore, à la page 43. Quel est son message général ? Les trois premiers chapitres du livre qui mêlent l'expérience matrimoniale du prophète et celle que fait le Seigneur face à l'infidélité de son peuple résument de manière excellente la perspective du recueil entier. Mais il y a tout un recueil, il y a encore des chapitres derrière. Nous allons voir quelques passages importants. Osée s'attache à montrer la gravité de la faute que constitue le reniement effectif de l'alliance, reniement de la parole, reniement de l'engagement. Et donc, le thème profond, c'est la fidélité. Qu'est-ce que c'est qu'être fidèle ? Est-ce que la fidélité n'est pas se laisser porter par l'autre et porter l'autre ? Il le fait en trois points. Un. Dénonciation sous la forme d'une mise en accusation dans le cadre d'un procès. Peut-être procès de divorce, possible. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. On se sépare, on se sépare pas, on revient. Deuxièmement, verdict et annonce de la condamnation qui sanctionne l'infidélité reconnue. Il faut reconnaître l'infidélité. Troisièmement, promesse de rétablissement de l'alliance par un surcroît d'amour se manifestant dans une miséricorde absolument inouïe de la part de Dieu. Est-ce que je partage la miséricorde de Dieu ? Autrement dit, est-ce que je crois en l'autre beaucoup plus qu'en moi-même ? Parce que l'autre est une présence de Dieu, même dans son infidélité. Et donc, c'est ce drame intérieur que nous voyons développé dans le livre d'Osée. Alors, pour ce qui est du livre d'Osée, je vous donne à la page 44 un plan général. C'est parfois difficile de se retrouver dans les prophètes, parce que les prophètes sont des personnes passionnées, et donc ils n'ont pas toujours d'ordre logique. Ce n'est pas du tout ça qui les intéresse. Et donc vous avez, première partie, donc après le titre, vous avez le mariage d'Osée et l'alliance du Seigneur qui sont mêlés, et puis on va développer le jugement d'amour de Dieu. L'amour est celui qui dit « Tu m'as fait mal, tu n'as pas bien fait, mais je t'aime. Et je t'aime plus que le mal que tu me fais. » Et donc on va développer cela, alors, non plus tellement dans la relation matrimoniale d'Osée, mais dans la relation du peuple avec Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement le peuple qui est en jeu, il y a aussi la terre. On parle beaucoup de la terre, la réalité dans laquelle on est implanté. Et la terre, ça signifie évidemment les mottes de terre, bien sûr, mais ça signifie le territoire. Est-ce qu'on y vit ? Alors, je commence tout de suite et je prends... Ce sont les passages que l'on connaît peut-être le mieux, mais ils sont importants parce qu'ils sont une clé. Cependant, déjà là, petit problème, quel est l'ordre ? Et les exégètes modernes qui aiment bien leur ordre logique, ils essaient de retrouver cet ordre logique, alors ils bousculent un peu les versets. Mais un prophète ne fait pas ça, il mêle tout. Alors, je vous donne un petit commentaire des trois premiers chapitres, et puis vous trouvez à la page 47 et 48, vous trouvez là une structuration des chapitres 1, 2 et 3. Mais le mieux, c'est de les lire et d'essayer de comprendre le mouvement qui est présent là-dedans. Le titre, facile. Parole du Seigneur qui fut adressée à Osée, Hoshéa, c'est-à-dire sauveur. Hein, il y a probablement Yehoshéa, hein, Dieu sauve, le sauveur. Fils de Béhiri, au temps d'Ozias, de Yotam, d'Akaz et d'Ézéchias. Donc plus de 25 ans. Roi de Juda et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Bon. La difficulté, c'est que on situe les gens du nord par rapport aux tribus au roi du sud, et les gens du sud par rapport au roi du nord. Et donc, la chronologie est toujours flottante. Il y a déjà pas mal d'exégètes qui se sont essayés à faire une chronologie des rois d'Israël, c'est extrêmement difficile. C'est toujours un peu hypothétique. Commencement de ce que le Seigneur a dit par Osée. Nous retrouverons ce commencement aussi, bien sûr dans la Genèse, mais aussi chez saint Marc, aussi chez saint Jean. Qu'est-ce que ça veut dire ? Commencement de ce que le Seigneur a dit par Osée. Il y a tout d'un coup quelque chose qui se vit. Qu'est-ce qui se vit ? Une relation. Le Seigneur dit à Osée, « Va, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution. Car le pays ne fait que se prostituer en se détournant du Seigneur. » L'idolâtrie est souvent traduite en termes de prostitution. On va chercher un autre Dieu, donc on va chercher une autre alliance. Ou bien l'adultère. Cela symbolise toujours l'idolâtrie. Il alla donc prendre Gomère, fille de Diblaïm, qui conçut et lui enfanta un fils. Une union libre, quoi. Le Seigneur lui dit, « Appelle-le du nom de Yisraël. » Yisraël, c'est la grande plaine au nord de la Samarie, plaine fertile. Yisraël, Dieu sème. Car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Yéhu pour le sang versé à Israël, et je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. Qu'est-ce qui se passe dans la maison d'Israël? Il se passe qu'il y a tout le temps des putschs militaires et que le roi n'a jamais, rarement, une descendance pendant une ou deux générations, et même pas, c'est souvent très peu. Il n'y a pas de continuité. Tout le temps des bagarres. On ne sait jamais qui est roi. Il adviendra en ce jour-là que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Yisraël. Eh bien, il y aura une bagarre. Et l'arc, c'est toujours la force, l'armée. Et donc, il n'y aura plus rien. Je briserai. Ce jeu, c'est le jeu de Dieu, bien entendu. Mais ce jeu de Dieu passe par les Assyriens, parce qu'on donne à Dieu. Ils font bien qu'ils fassent avec ce que l'homme lui donne. Elle conçut encore. Et elle enfanta une fille. Le Seigneur lui dit, « Appelle-la du nom de Loruhama, non chérie, pas aimée, Loruhama. » Car désormais, je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël pour lui pardonner encore. C'est difficile de pardonner, dit Dieu. Il s'en rend bien compte. Mais de la maison de Juda, j'aurai pitié et je les sauverai par le Seigneur, leur Dieu. C'est-à-dire que après la destruction du Nord, du royaume du Nord, de la Samarie, mais le royaume de Juda va continuer encore pendant deux siècles. Je les sauverai par le Seigneur leur Dieu, pour dire, il y a un temps pour chacun. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Vous comprenez? C'est pas le pouvoir qui est important. Elle sevra, Loruhama, la non-chérie, conçut encore, et enfanta un fils. Le Seigneur lui dit, appelle-le du nom de Lo-Ami, c'est pas mon peuple. Am, c'est le peuple, Lo-Ami, c'est pas mon peuple. Car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je n'existe pas pour vous. Les noms sont symboliques, évidemment. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Au lieu même où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se réuniront, ils se donneront un chef unique, ils déborderont hors du pays, et il sera grand le jour de Yisraël, la terre. Dites à vos frères, mon peuple, et à vos sœurs, celles dont on a pitié, celles que l'on chérit. Et c'est très important que cette vue sur l'avenir soit donnée tout de suite. Ce qu'ils ne sont pas, ils peuvent le devenir. Mais il y aura une traversée. La traversée d'une mort, d'une rupture, d'un déchirement. Et justement, il faut savoir lire dans le déchirement l'unité qui pointe. Intentez un procès à votre mère. Voilà, maintenant qu'on prend les enfants, puisque ce sont des enfants de prostitution, ils portent leur hérédité, mais maintenant il faut leur intenter un procès. Un procès, le procès que Dieu intente, c'est un chemin de miséricorde. Il ne faut pas oublier cela. C'est aider le peuple ou la personne à se conscientiser non plus par rapport à ce qu'elle vit d'habitude, mais par rapport au Seigneur. Intentez un procès à votre mère, intentez un procès, car elle n'est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari. Le peuple est la femme du Seigneur. Hein? Le Seigneur a une femme, il a une maison, et il a un jardin. Sa femme, c'est Israël, sa maison, c'est le temple, et le jardin, ben, c'est la terre. C'est comme ça que le prophète va voir les choses. Et là, il innove par rapport à un pacte, une alliance qui ne serait qu'un contrat. Qu'elle écarte de sa face ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères. Sinon, je la déshabillerai toute nue, je la mettrai comme au jour de sa naissance, je la rendrai pareille au désert. Il faut passer par un désert. Il faut passer par l'humiliation éventuellement, mais finalement l'humilité. Découvrir l'humilité, découvrir qu'on n'est rien, sa fragilité absolue. Je la réduirai en terre aride. Je la ferai mourir de soif et de ses enfants, je n'aurai pas pitié, car ce sont des enfants de prostitution. Nous sommes mêlés à toutes sortes de non-valeurs et que nous essayons de justifier. Oui, leur mère s'est prostituée. Celle qui l'est conçue s'est déshonorée. Elle a dit, je veux courir après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine, mon lin, mon huile, ma boisson. Toute la réalité économique. Hein? C'est pourquoi je vais obstruer son chemin avec des ronces. Je l'entourerai d'une barrière pour qu'elle ne trouve plus ses sentiers. C'est comme si Dieu faisait tout ça là. Hein? C'est dit comme ça. Ce qui veut dire, tout ce que l'homme fait n'échappe pas à la présence de Dieu. On lui fait faire tous les métiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Alors elle dira, je veux retourner vers mon premier mari. Ben déjà l'enfant prodigue hein, qui revient ici. Qui revient et n'est pas encore venu, finalement. Alors elle dira, je veux retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse alors que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnais le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche. Elle a coupé le cordon ombilical qui lui prodiguait cet argent et cet or qu'ils ont employé pour Baal. Ils ont employé tout ce qui leur avait été donné par Dieu, toute leur nourriture, pour la prostitution, c'est-à-dire pour des idoles. C'est pourquoi je reprendrai mon froment en son temps et mon vin nouveau en sa saison. Je retirerai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Puis je dévoilerai son infamie aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de ma main. Je l'aime, elle est dans ma main. Je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses néoménies, ses sabbats et toutes ses solennités. Je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle disait, « Ils sont le salaire que m'ont donné mes amants, j'en ferai un allié. » On va brûler tout ça. Et la bête sauvage les dévorera. Je la châtierai pour les jours des Baals, pour ce qu'elle a fait. Mais c'est pas le châtiment dans la Bible n'est pas exactement ce que nous estimons quand nous parlons de punition. Le châtiment, c'est la conséquence de ce que nous faisons. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Dieu ne s'est pas châtié. Il ne peut être que miséricordieux. C'est précisément ce que le prophète veut dire. Je la châtierai pour les jours des Baals, auxquels elle brûlait de l'encens quand elle se parait de son anneau et de son collier et qu'elle courait après ses amants. Et moi, elle m'oubliait, le oracle du Seigneur. Elle m'oubliait. Elle ne savait pas que c'était moi qui vivais tout cela en elle. C'est pourquoi je vais la séduire. Je la conduirai au désert. Quand elle n'aura plus rien, elle n'aura plus que l'amour. L'amour à recevoir gratuitement. Et je parlerai à son cœur. Elle a vécu dans l'extériorité. Il faut maintenant retrouver son être profond. Là, je lui rendrai ses vignobles. Et je ferai du Val d'Accor une porte d'espérance. Le Val d'Accor, le Val de Tristesse, une porte d'espérance. Petah Tikva. Il y a encore une ville en Israël qui s'appelle Petah Tikva. Porte d'espérance. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte, quand elle était libre. Il adviendra en ce jour-là, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari, qu'Israël reconnaîtra son Dieu comme son époux. Tu ne m'appelleras plus mon Baal. C'est un jeu de mots, parce que mon mari, en hébreu, c'est Baali, mon Baal, mon maître. Mais ici, il joue « Tu ne m'appelleras plus mon mari, tu ne m'appelleras plus mon Baal, tu m'appelleras mon mari, mon aimé. » Je conclurai pour eux une alliance en ce jour-là. Ah tiens, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Conclure une alliance. Mais une alliance, ce n'est pas seulement un contrat, c'est une vie. Avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Donc ça a quelque chose à voir avec la réalité du sol. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai et les bannirai du pays. Et eux, je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Et le terme connaître, c'est l'union conjugale. Tu connaîtras le Seigneur, tu découvriras vraiment comment il n'est que miséricorde. Il adviendra en ce jour-là, c'est un terme que les prophètes aiment beaucoup. C'est quand ce jour-là? C'est quand tu veux. Et quand tu veux ce jour-là? Quand tu te décideras, ce sera ce jour-là. Quand tu te convertiras, ce sera ce jour-là. Quand tu verras clair, ce sera ce jour-là. Mais dire ce jour-là, c'est toujours dire l'espérance. Le dernier mot de Dieu n'est jamais le mal. Le dernier mot de Dieu est toujours la vie, pas la mort. Il adviendra en ce jour-là que je répondrai, oracle du Seigneur, je répondrai aux cieux et eux répondront à la terre. La terre répondra au froment, au vin nouveau et à l'huile fraîche, et tous les produits du sol, et eux répondront au Seigneur, à Israël, pardon. Je la sèmerai, semer Israël, il le semera, je la sèmerai dans le pays, j'aurai pitié de l'eau Rouhama. Je dirai à l'Ouami, tu es mon peuple, et lui dira, mon Dieu. Et ce qui était déjà annoncé au chapitre 2 devient maintenant l'espérance. Le Seigneur me dit, c'est à oser, bien entendu. Va de nouveau, aime une femme qui en aime un autre et qui commet l'adultère, comme le Seigneur aime les enfants d'Israël alors qu'ils se tournent vers d'autres dieux et qu'ils aiment des gâteaux de raisin. C'est-à-dire, découvre dans l'infidélité de ta compagne, découvre la fidélité de Dieu. Je l'achetais donc pour 15 cycles. Hein. La dot, hein, on achète. 15 cycles d'argent et un muid et demi d'orge. Toujours aussi en nature. Et je lui dis, pendant de longs jours, tu me resteras là, sans te prostituer sans appartenir à un homme, et j'agirai de même à ton égard. Nous prendrons distance. Nous ferons ensemble, mais chacun de son côté, une retraite. Car pendant de longs jours, les enfants d'Israël resteront sans roi. Ce sera l'époque de la retraite. Et sans chef, sans sacrifice, donc le roi aura disparu. Sans sacrifice, il n'y aura plus de temple. Et sans stèle, sans éphod et sans théraphim, qui sont des manières de tirer le sort qui vient de Dieu. Ensuite, les enfants d'Israël reviendront et chercheront le Seigneur, leur Dieu. Et David, leur roi, le Seigneur, leur Dieu, et David, leur roi. Ils accourront en tremblant vers le Seigneur et vers ses biens dans la suite des jours. Mais ça va durer longtemps. Ça va durer 60 ans, l'exil. Et après ça, ça ne sera pas mieux. Hein. Quand on restaurera le territoire, ce ne sera pas du tout idéal. Hein. Ce sera plein de difficultés, nous le verrons avec Isaïe. Mais il y aura autre chose. Il y aura une présence divine dans tout cela. Et ça change tout. Et puis, il va commencer à annoncer, il va passer maintenant de son expérience personnelle à la réalité que le peuple vit. Les crimes et les châtiments d'Israël. Mais bien entendu, le châtiment, c'est ce que nous imposons à nous-mêmes quand nous faisons mal. Et que Dieu doit bien avaliser. Il doit l'accepter puisque c'est. Et alors, tout le monde y passe. Hein? Le peuple, Judas et Israël, donc les deux royautés, les prêtres, les grands, les rois, la guerre fratricide, toutes les bagarres. Hein? On reviendra à Dieu de temps en temps un petit peu, puis on retombera. Et justement, c'est étaler en quelque sorte l'ingratitude du peuple vis-à-vis de son Dieu. Ce sont de petits poèmes, de petits oracles, qui, comme je vous le disais la fois passée, comme l'éditorial d'un journal, hein, qu'on écrit de temps en temps à telle ou telle occasion, et puis, après l'exil, on a mis tout ça ensemble. Et ça fait évidemment une grosse masse et beaucoup de répétitions. Je suis déjà au chapitre 11. Quand Israël était enfant, était jeune, je l'aimais. Et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mon fils, c'est Israël, mon fils aîné. Quand Israël était enfant, je l'aimais. Et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mais plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi. Au Baal, ils sacrifiaient. Aux idoles, ils brûlaient de l'encens. Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je le prenais par les bras. Ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leurs joues. Je m'inclinais vers lui et le faisais manger. Il ne reviendra pas au pays d'Égypte, mais Assour sera leur roi. Ils vont tomber dans d'autres mains. Puisqu'il a refusé de revenir à moi, l'épée sévira dans ses villes, elle anéantira ses verrous, elle dévorera à cause de leur dessein. Mon peuple est cramponné à son infidélité. On les appelle en haut, pas un qui se relève. Comment t'abandonnerai-je, Ephraïm? Te livrerai-je, Israël? Comment te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm, c'est-à-dire des villes qui ont été détruites? Mon cœur en moi est bouleversé. Toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Ephraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint. Je ne viendrai pas avec fureur. Et alors, un prophète ultérieur a exprimé sa réaction. Derrière le Seigneur, ils marcheront, c'est-à-dire quand ils rentreront chez eux après l'exil. Derrière le Seigneur, ils marcheront. Comme un lion, il rugira, et quand il rugira, les fils viendront tremblant de l'Occident. Comme un passereau, ils viendront en tremblant de l'Égypte, comme une colombe du pays d'Assour, et je les ferai habiter dans leur maison, oracle du Seigneur. Tout le monde deviendra calme. Chacun aura son pays. Il faut cependant que je vous cite encore, je suis passé au-dessus pour aller tout de suite à la fin, c'est-à-dire à la porte d'espérance. C'est le chapitre 6 qui a été souvent utilisé dans le Nouveau Testament aussi. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré, il guérira. Il a frappé, il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous fera revivre. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons dans sa présence. Ce petit texte est important parce que dans la tradition juive, il y a toujours 2 temps de misère, 2 temps de difficulté, de destruction, puis 1 temps de grâce. Mais il faut passer par l'épreuve. Il faut passer, non pas parce que Dieu veut nous éprouver, mais c'est nous-mêmes qui nous éprouvons, parce que nous avons du mal d'être fidèles au Dieu fidèle. Et alors vous avez à la fin, comme dans tous les livres des prophètes, on a toujours mis les oracles d'espérance tout à fait à la fin, un certain nombre en tout cas. Donc revenez au Seigneur, eh bien, reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ta faute qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui, enlève toute faute et prends ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous vouerons nos lèvres. Assour ne nous sauvera pas. Nous ne monterons plus sur des chevaux. Nous ne dirons plus notre Dieu à l'œuvre de nos mains. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouvera compassion. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai de mon cœur, puisque ma colère s'est détournée de lui. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il enfoncera ses racines comme le chêne du Liban. Ses rejetons s'étendront. Il aura la splendeur de l'olivier et le parfum du Liban. Et voilà la poétique qui vient à Osée. Ils reviendront s'asseoir à mon ombre, ils feront revivre le froment, ils feront fleurir la vigne qui aura la renommée du vin du Liban. Ephraïm, il ne restait plus que la petite tribu d'Ephraïm. Ephraïm, qu'a-t-il encore à faire avec les idoles? Moi, je l'exauce et le regarde, je suis comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que vient ton fruit. Et il y a encore un disciple de disciple de disciple, peut-être, du prophète, qui a ajouté, qui est sage pour comprendre ces choses, intelligent pour les connaître. Droites sont les voies du Seigneur, les justes y marcheront, les infidèles y trébucheront. Voilà, en très bref, quelque chose du livre d'Osée. Mais il faut le lire et le relire et le relire pour découvrir le chemin d'amour de Dieu à travers l'infidélité du peuple. Je passe tout de suite à Michée. Nous retrouvons un procès. Le procès, c'est un genre typique du prophète. Le procès, c'est l'altercation. Le procès, c'est ce qui se passe aux portes de la ville. Ce qu'en Afrique, on appelle la palabre. L'assemblée des anciens, généralement c'était comme ça, le procès. Et on accuse pour trouver une voie de compréhension mutuelle. Et c'est souvent comme ça. C'est toi qui as fait ça, non c'est toi. Et on se bagarre comme cela, entre mari et femme, entre enfants et parents, etc., entre gars et entre filles. C'est toi. On commence par là. Mais il faut arriver à s'assagir. Il faut arriver, après l'altercation, il faut arriver à prendre un peu distance de ce qu'on est en train de vivre. Finalement, nous le disons parfois, c'est pas si grave. Il faut relativiser les choses. C'est pas un drame. Rendons-nous compte de la réalité concrète, minime, de ce que nous vivons. Nous en faisons tout un plat, c'est pas si important. Michée. Je vais vous lire cela dans une traduction un peu plus forte, parce que quand nous traduisons en français, c'est quand même un peu édulcoré. Le français estime devoir être poli. Mais les prophètes ne sont pas polis. Hein. Vous les peuples, c'est le début. Écoutez tous. Terre habitée, fais attention. On invite toujours le monde entier, le ciel et la terre. Vous verrez, ça revient chez tous les prophètes. Ça fait scandale. Que vienne témoigner contre vous le Seigneur Dieu. Seigneur, depuis son temple sacré. Le voici, c'est le Seigneur qui sort de chez lui. Il descend et foule les hauts lieux de la terre. Mais les hauts lieux de la terre, ce sont les endroits des idoles. Il les foule. Il descend et foule les hauts lieux de la terre. Les montagnes fondent sous ses pas, les vallées se crevassent comme la cire à la face du feu, comme l'eau qui dévale une pente. Tout cela, c'est pour la désobéissance de Jacob et pour les péchés de la maison d'Israël. Qui est-ce, la désobéissance de Jacob, sinon Samarie? Qui sont les hauts lieux de Juda, sinon de Jérusalem? C'est affreux de dire des choses pareilles, hein? Donc, vos lieux, Jérusalem, c'est vraiment la pagaille. C'est le lieu de la désobéissance. Je vais faire de Samarie un champ de ruines, une garrigue. J'en ferai rouler les pierres dans la vallée et je mettrai à nu les fondations. Toutes ses statues seront mutilées, tous les cadeaux qu'elle a reçus seront brûlés. Je saccagerai toutes ses idoles accumulées avec des cadeaux faits à des prostituées. Elles repartiront en cadeaux pour prostituées. Voilà ce que, qui m'a fait hurler et brailler et marcher dépouillé, tout nu. C'est le prophète qui s'en va tout nu comme cela et il attire l'attention en poussant des hurlements de chacal et des plaintes d'autruche. Car chacune de ces places, de ces plaies, pardon, est contagieuse et a gagné Judas. On s'est approché de la porte de mon peuple, Jérusalem. Et il a parlé un peu de Samarie. Maintenant, il va redire les mêmes choses pour Jérusalem, pour le royaume du Sud. Le royaume du Sud, qui tient toujours, n'a pas encore été pris. Il ne sera pas pris par Sargon II en 721 comme la Samarie, mais il sera pris plus tard par Nabuchodonosor. Donc, ce qui s'est passé pour la Samarie devra servir de leçon pour Judas. Et puis il parle alors de toutes sortes de noms. Je ne prends pas le texte parce que nous ne connaissons pas tous ces noms, mais c'est intéressant de voir que tous les petits pays, comme nous disons, hein, toutes les petites villes, les villages sont nommés. Et ces villages, qui sont aussi nommés dans l'histoire deutéronomiste, ce sont des endroits bien déterminés. Et tout ça va disparaître. Alors je prends tout de suite le chapitre 2. Je m'en vais au chapitre 2. Malheur. Aussi un terme qui est utilisé très souvent par les prophètes. Oi, hélas, comme ça qu'il faudrait traduire. Malheur à ceux qui préméditent un crime et qui élaborent au lit un mauvais coup. Hein? On remue dans sa tête comment on va voler son prochain. Comment on va faire réussir des actions, etc., etc. Dès l'aube, ils passent aux actes, car ils en ont le pouvoir, ils le croient. Convoitent-ils des champs, ils les volent. Des maisons, ils s'en emparent. Hein? Nous, maintenant, c'est un coup d'action, hein? C'est la même chose. Ils exploitent un homme et sa famille, une personne et ses héritiers. C'est pourquoi le Seigneur a dit ceci. Je prémédite, bah vous préméditez, moi aussi je prémédite. Je prémédite un malheur contre cette classe-là. Vous ne pourrez pas vous en sortir, ni marcher la tête haute, car ce sera le temps du malheur. Toutes vos propriétés, toutes vos banques, chut, faillite. Ce jour-là, on prononcera sur vous une satire. On chantera la complainte que voici. Elle dira, nous sommes entièrement détruits, ma propriété de famille a changé de main. Comment ose-t-on me la retirer et distribuer nos champs à un ennemi? Ah oui, ben c'est ce qui s'est passé, tiens. Vous aviez une belle propriété, il ne reste plus rien, tout est saccagé. On a fait des lotissements, on construit. C'est pourquoi personne ne t'attribuera dans l'assemblée du Seigneur un lot de terre. Tu n'auras plus un pouce de terrain, restera plus rien. Cessez de prêcher, prêche-t-il. Qu'on ne prêche pas là-dessus. Le déshonneur n'arrivera pas. Ça, ce sont les faux prophètes. Ils disent non, ça n'arrivera pas. Comme Pierre qui dit, quand le Seigneur parle, il va aller à Jérusalem pour se faire juger pour sa passion, pour mourir. Ça ne t'arrivera pas, Seigneur, t'arrivera pas, Seigneur. On dit souvent ça. Non, ça ne t'arrivera pas. Cette maison n'a-t-elle pas été appelée maison de Jacob? Et le Seigneur est-il à bout de souffle? N'a-t-il pas cette ligne de conduite? Mes paroles ne feraient pas du bien. À qui marche droit? Donc marcher droit. Pas du tout. Chez mon peuple, on agit en ennemi. outre le vêtement, vous enlevez l'honneur à des passants tranquilles revenus de la guerre. Les femmes de mon peuple, vous les chassez, chacune du foyer où elle était heureuse. Au nouveau-né de chacune, vous arrachez la dignité inaliénable. Hein? Ce sont les ennemis qui prennent le terrain. Mais vous-même, vous faites la même chose. En route, allez-vous-en. Ici, ce n'est plus un lieu de repos. Car souillé, il détruit d'une destruction terrible. Si quelqu'un est dans le vent et vous débite ce mensonge, avec du vin et de l'alcool, je peux prêcher pour toi. Le voilà devenu prédicateur de ce peuple. Vous donnez à quelqu'un du vin, d'alcool pour qu'il prêche ce que vous voulez qu'il prêche. Faux prophète. Oui, Jacob, je te rassemblerai tout entier. Oui, je regrouperai les rescapés d'Israël, je les remettrai ensemble, comme des moutons dans un enclos, comme un troupeau au milieu d'un parc, et ils feront un bruit de foule. Et puis, je passe tout de suite au chapitre 6, parce qu'il y a là un verset fort important. Écoutez bien ce que dit le Seigneur. Intente un procès face aux montagnes, que les collines entendent la plainte, ta plainte. Le Seigneur est en procès. Écoutez, montagne, et vous, assises permanentes du pays, le Seigneur est en procès avec son peuple. Il a des démêlés avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? Comment ai-je pu te fatiguer? Accuse-moi. Est-ce parce que je t'ai fait remonter du pays d'Égypte, que je t'ai libéré du bagne, que j'ai envoyé à ta tête Moïse, Aaron et Myriam? Mon peuple, souviens-toi de ce que projetait Balak, le roi de Moab, nous l'avons vu avec Déborah, de ce que Balaam, fils de Béor, lui a répondu, et de la route de Chittim à Gilgal, c'est-à-dire quand on est entré en terre promise, afin de reconnaître les bontés du Seigneur. Avec quoi vais-je me présenter devant le Seigneur et me courber devant le Dieu suprême? Faut-il me présenter à lui avec des holocaustes, avec des veaux de l'année? Le Seigneur désire-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? À tous les sacrifices, dois-je donner mon aîné pour ma désobéissance, sacrifice d'Abraham, ma progéniture pour ma propre expiation? Est-ce qu'il faut que je fasse plus de sacrifices? Est-ce qu'il faut que je fasse... Alors, ô homme, on t'a dit ce qui est bien. Ce que le Seigneur te demande, ce qu'il attend de toi. Avant tout, agir avec justice. Préférer la loyauté ou la bienveillance ou la miséricorde, on peut traduire de différentes manières, et marcher humblement en accord avec ton Dieu. On te fait savoir, homme, ce qui est droit. D'abord, la justice, puis la vérité, l'authenticité, et marcher humblement avec ton Dieu. Ça, c'est un verset important. On met souvent son désir dans le vouloir faire quelque chose pour. Mais il ne faut pas faire quelque chose pour. Il faut être simplement cette présence de Dieu là où on est.